Bonsoir, entrons ensemble dans le temps du débat, comme tous les soirs, du lundi au vendredi sur France Culture entre 18h20 et 19h. À l'ordre du jour ce soir, la compréhension de la radicalisation islamiste a-t-elle progressé ? Demain, à Mulhouse, le président de la République devrait prononcer le premier des discours qu'il a préparé à propos de ce qu'il appelait encore il y a quelques semaines le risque de communautarisme dans la société française. Ce discours mettrait en avant, selon certaines sources, le séparatisme, entre guillemets, de certains quartiers dans lesquels l'islamisme se serait installé et prospérerait. Une analyse qui ne fait pas l'unanimité dans le milieu des chercheurs spécialisés sur la radicalisation islamiste. Nous en discutons ce soir avec quatre d'entre eux. Hugo Micheron est chercheur au sein de la chaire d'excellence Moyen-Orient de l'École normale supérieure. Il est enseignant à Sciences Po et auteur chez Gallimard d'un livre qui vient tout juste de sortir, Djihadisme français, quartier, Syrie et prison. Bernard Godard est avec nous, il est consultant, ancien chargé de mission en cabinet ministériel, puis chargé de mission au bureau central des cultes du ministère de l'Intérieur entre 2002 et 2014. Il est auteur de La question musulmane en 2015 chez Fayard. Leïla Dakli est également avec nous, elle est historienne, chargée de recherche au CNRS et autrice d'une enquête pour la revue du Crieur, c'était en 2016, l'islamologie et un sport de combat. Elle nous expliquera en quoi cette enquête a quelque chose à voir avec notre sujet du jour. Elle est en duplex depuis les studios de notre correspondant à Berlin, Ludovic Piétenu. Corinne Torreken est avec nous depuis la Belgique. Elle est chercheuse à l'Université libre de Bruxelles et elle est spécialiste de l'islam en Belgique, en particulier à Bruxelles.
Il y a les religions en France, dont une religion, l'islam, qui s'inscrit dans un cadre, celui de la République, où on doit respecter toutes les règles, de manière absolue, et je serai intransigeant. Mais on doit aussi respecter la liberté de croire et de pas croire, c'est ça la laïcité. Faisons bloc et ne nous divisons pas, pour lutter d'abord et avant tout contre la radicalisation dans notre société. Œuvrons pour que la République soit partout et être intraitable avec le communautarisme. Mais ne stigmatisons pas nos concitoyens. Je pense qu'on peut le faire tous ensemble, en respectant pleinement notre laïcité, la force de celle-ci. Mais concentrons-nous sur l'essentiel, la menace. Ne divisons pas.
Voilà, vous l'aurez reconnu, c'était Emmanuel Macron. C'était avant-hier, pourrait-on dire, dans le discours sur l'islamisme en France. C'était le 16 octobre dernier. On était alors en plein dans la polémique sur le port du voile. Et sa prise de parole a eu lieu lors d'une conférence de presse en marge d'une rencontre avec Angela Merkel à Toulouse. Il parlait à l'époque de communautarisme et de radicalisation. Nous allons voir peut-être que cela a changé au niveau des plus hautes sphères de notre pays en quelques mois ou en quelques semaines. Nous sommes donc avec vous, Hugo Micheron.
Bonjour.
Bonjour. Avec vous, Bernard Godard, merci d'être avec nous.
Bonjour.
Et puis avec Leïla Dakli, vous m'entendez Leïla ?
Oui, je vous entends.
Bonjour. Merci d'être là. Et Corinne Torreken, vous m'entendez également ?
Je vous entends également.
Merci d'être là également. Alors, peut-être il faudrait expliquer pourquoi ce glissement de terme, pourquoi on est passé du terme de communautarisme utilisé par le président de la République à ce terme dont les proches de l'Élysée disent aujourd'hui qu'il ne serait plus en cours, c'est le cas de le dire, mais qu'il serait remplacé par le terme de séparatisme, Hugo Micheron.
C'est une question de sémantique et de communication politique, à savoir que séparatisme a été préféré donc à communautarisme parce que ça renverrait probablement à un phénomène qui se déroulerait sur le territoire français et non pas forcément à un comportement uniquement religieux. C'est-à-dire en fait considérer les tendances à l'échelle d'un territoire ou d'un groupe d'individus et de militants plutôt que simplement d'affairer des tendances et des dynamiques à l'évolution d'un discours religieux et de cette façon d'élargir quelque part le débat à simplement la question de l'islam et de l'islamisme et plus largement des questions des tensions politiques et religieuses qui se produisent dans un certain nombre de territoires à l'heure actuelle en France.
Bernard Godard, vous avez eu le temps en 20 ans d'expertise auprès des ministres divers et variés de vous poser la question des termes. Vous les avez vus évoluer ces termes. Communautarisme, c'était peut-être le dernier d'entre eux avant qu'on lui préfère séparatisme. Visiblement, qu'est-ce qu'il y a eu entre-temps ?
Alors, ce qui s'est passé, c'est les attentats de 2015. Donc, auparavant, effectivement, le registre, on a employé le mot terrorisme, quand on passait à la violence, Hein. Mmh. Et puis après, quand on parlait de communautarisme, le terme était déjà employé, on entendait par là les gens qui, effectivement, avaient un comportement d'opposition par rapport au reste de la société, qui étaient en rupture de la société, parce que j'entends moins le communautarisme dans ce sens-là. Parce qu'on fait communauté, on peut faire communauté et avoir une religiosité exacerbée, mais on peut faire communauté quand même avec le reste de la société. Mais communautarisme, c'est vraiment quelque chose qui marque une opposition par rapport... Il y a des communautarismes, effectivement, musulmans, mais il y en a dans d'autres secteurs. Et c'est vrai que depuis les attentats de 2015 en France, il y a le registre du terrorisme et le registre de la radicalisation et le registre du communautarisme. On est dans un joyeux mélange aujourd'hui et je pense qu'effectivement, il faudrait remettre peut-être les pendules à l'heure en attendant le président de la République.
Pour savoir ce qu'il veut dire,
effectivement. Ce qu'il veut dire, parce que c'est intéressant, il faut se pencher sur la question sérieusement.
Corinne Torekens, vous êtes donc chercheuse à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles. Vous êtes spécialiste de l'islam en Belgique. Est-ce que ces termes qu'on vient d'évoquer, séparatisme, communautarisme, terrorisme, sont des termes que vous utilisez vous aussi dans vos propres travaux ou que les dirigeants de votre pays en Belgique utilisent?
Alors, ce sont souvent des termes qui sont spécifiques au contexte français, parce qu'il faut rappeler que la Belgique est organisée sur base de communautés, et donc de communautés culturelles. On a une communauté française, on a une communauté néerlandophone. Donc vous voyez tout de suite que le débat public belge est très différent du débat public français. Et donc, à l'égard de ce terme de séparatisme, je crois qu'il a plus de vertu de confusion que d'éclaircissement, puisque donc il renvoie aussi à la question des pratiques. Alors, appelons-les pour le moment orthodoxes, pour ne pas utiliser d'autres termes, et notamment des termes se terminant en isme. Et donc, la question de l'orthodoxie induit forcément des comportements de séparation à l'égard de la société majoritaire et pourtant n'est pas non plus ne tombe pas forcément sous le coup de la loi. Donc je trouve que ça obscurcit plus le débat que ça ne l'éclaircit.
Vous êtes avec nous également, Leïla Dakli, depuis les studios de Berlin de notre correspondant Ludovic Piétenu. Vous avez écrit donc en 2016 un article qui était une sorte de panorama de l'état de réflexion sur l'islamologie en France, qui était intitulé « L'islamologie est un sport de combat ». Et c'était dans la revue Le Crieur. C'était une façon de dire, il y a plusieurs écoles à l'œuvre qui conseillent ou qui tentent de conseiller nos dirigeants pour savoir ce qu'il faut faire en matière justement de radicalisation islamiste. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce que vous aviez dit dans cet article qui était fort intéressant parce qu'il montrait qu'il y avait des figures qui étaient toutes différentes et qui tentaient d'une manière ou d'une autre de pousser leur pion vis-à-vis des dirigeants du pays?
Je veux bien essayer de le résumer. En effet, à l'époque, la question qui se posait avait été souvent résumée à une opposition entre ce qu'on appelle, suivant Olivier Roy en particulier, l'islamisation de la radicalité, et ce que d'autres, en particulier Gilles Kepel, considéraient comme une radicalisation de l'islam. Alors ça a l'air comme ça un peu d'un jeu avec les mots, mais ça révèle deux approches différentes et deux façons de prendre le sujet. Et ce que j'avais essayé de faire avec cet article, c'était de déplier ces approches et d'essayer de voir ce qu'elle cachait, mais la manière dont on pouvait les analyser. Et on voit bien encore aujourd'hui, et avec ce premier tour de parole, à quel point cette question de l'islam de France, ou de l'islamisation, je sais pas comment l'appeler, dès qu'on pose des questions, on ouvre plein de dossiers en même temps. On ouvre la question de l'islam, et de la religion, et de la place de la religion dans la société. On ouvre la question, on a entendu le mot territoire, mais de la société française, et des différents espaces de ségrégation. On ouvre aussi un dernier espace qui était celui sur lequel je m'étais penchée, qui était celui de la concurrence de l'expertise aussi, mm-hmm. c'est-à-dire du lien entre l'expertise et le politique, du lien entre l'expertise et la police, y compris. Que faut-il faire et quel type de conseils donner? Et donc c'est à cause de cette mise en tension de ces différents espaces que... À chaque fois ressurgissent des débats autour de l'islam politique qui, radicalisent également les scientifiques et les experts dont c'est le métier de travailler là-dessus. Donc on a une position, disons, pour le dire vite, qui est un peu plus culturaliste, et une autre qui sera un peu plus fondée sur la sociologie. En tout cas, c'était le cas en 2016 quand moi j'ai travaillé dessus.
Alors, c'était en 2016, mais effectivement, peut-être les positions ont-elles évolué, des chercheurs ont travaillé entre-temps, et c'est ce que nous voulions montrer en prélude à ce discours du président de la République demain à Mulhouse, d'essayer de voir si justement les positions étaient figées. On a parfois l'impression qu'elles le sont, puisque l'autre jour, dans le Figaro, je crois, Gilles Kepel a voulu relancer, Gilles Kepel qui a dirigé votre thèse, Hugo Micheron a voulu relancer cette querelle de islamisation de la radicalité ou radicalisation de l'islam. On a vu un article très dur dans la Dépêche du Midi contre vous et contre Bernard Rougier, qui travaillait tous les deux avec Gilles Kepel, de Farhad Khosrokavar et d'un autre chercheur de Toulouse, sur cette question, en disant mais ils ne comprennent rien, ça n'est pas comme cela qu'il faut analyser cette radicalisation islamiste en France. Hugo Micheron, qu'est-ce que vous pensez justement de ces querelles qui continuent à se réalimenter régulièrement et qui, d'une certaine façon, peut-être trouble aussi les oreilles des décideurs qui doivent à un moment ou à un autre choisir une politique.
Oui, je crois qu'on n'est pas en fait condamné à on n'est pas condamné à la violence dans les débats. Je veux dire, la recherche.
C'est pourtant souvent le cas.
Mais c'est pourtant souvent le cas. Mais en ce qui me concerne, moi, j'ai mené un travail de terrain pendant 5 ans. J'ai fait ma thèse avec Gilles Kepel, mais j'estime quand même exister pleinement
en tant que chercheur
individuellement, et c'est le but d'une thèse, c'est justement de passer à l'âge adulte, si j'ose dire, de la recherche, c'est-à-dire à s'affirmer. Et donc c'est pour ça que cet ouvrage est le fruit de mes propres recherches. Et donc de ce point de vue-là, j'estime, sur la base de mon travail, être en capacité de discuter avec tout le monde et de défendre ce que j'estime être mes recherches, mais aussi de m'enrichir au contact des autres chercheurs. Je crois qu'en fait le débat était violent parce que le sujet a été particulièrement important. On a été devant un vide d'explication en 2015 à partir des attentats, qui fait que ce qui a circulé dans le débat public était des interprétations plus que des recherches qui étaient fondées sur la base d'éléments empiriques. D'où la nécessité pour moi, et ça a été ma démarche, de repartir du terrain, c'est-à-dire de construire, de reproduire de la connaissance.
Vous avez mené de longs entretiens avec
en prison, dans un certain nombre de quartiers concernés par les dynamiques, par les départs pour la Syrie et l'Irak, et puis au Levant également, qui était la zone où évidemment il se rendait. Et tout ça, le but, c'est de le livrer au débat public et donc d'accepter le débat public contradictoire. Maintenant, s'il y a du débat, on remarquera également que c'est pas le propre de ce sujet, puisque l'université est quand même accoutumée à avoir des grandes querelles. Celle-ci en fait partie, mais peut-être qu'il va falloir également réussir à sortir le débat public de cette opposition qui, si elle est systématiquement reproduite, devient stérile.
Bernard Godin ?
Oui, je crois que de la part de Farhad Khosrokavar et Jérôme Ferré,
qui est
avec lui, qui est de Toulouse, c'était un mouvement de colère, un mouvement un peu exacerbé lui-même aussi. Et
nous avons invité Farhad Khosrokavar pour qu'il vienne, oui. il n'a pas pu venir, voilà. D'accord. Je voulais préciser.
Et du coup, si vous voulez, on met tout le monde dans le même sac, etc. Je pense qu'il a provoqué l'irritation de ces chercheurs. C'est un peu l'introduction non pas du livre de Hugo Micheron, mais de l'introduction du livre de Bernard Rougier.
Auquel Hugo Micheron a participé d'ailleurs.
Voilà. Mais dans cette introduction, effectivement, il y avait une charge un peu, on va dire, un peu violente quand même sur un ensemble de chercheurs qui n'auraient rien compris au phénomène de la radicalisation, de la violence islamiste et tout. Et c'était un peu injuste, d'autant que Farhad Khosrokavar, par exemple, travaille dessus depuis plus de 20 ans.
Brièvement, Hugo Micheron, je redonne la parole ensuite à Corinne Terquin et à Leïla Dakhli.
On peut quand même s'étonner de ces chercheurs qui appellent à sortir d'un débat binaire et qui en fait le reproduisent. C'est-à-dire que cette tribune en question, finalement, qu'est-ce qu'elle apporte véritablement au débat public ? Moi, j'ai l'impression que ça a été vraiment la posture d'arrière-garde pour empêcher de réfléchir autour de ce sujet. On peut penser ce qu'on veut de mon livre, mais on peut pas refuser le fait que j'ai travaillé pendant 5 ans dessus et que, à ma connaissance, le terrain que j'ai réalisé, personne ne l'avait fait jusque-là. On peut reprocher beaucoup de choses au travail de Bernard Rougier, mais on peut aussi considérer considérer qu'il apporte une pierre au débat public et qu'il n'y a pas besoin de multiplier les attaques ad hominem qui sont parfois allées très loin, et que lui aussi a sa place dans le débat public. Et je crois que si on veut débattre sereinement, il faut que tout le monde alors accepte ce qui est vraiment le principe fondamental dans l'université, c'est l'échange des faits et le débat autour de ça.
Mais vous savez bien, Hugon Bicheron, que quand on est dans l'université, mais que on devient d'une certaine manière des experts auprès du politique, on est sorti de l'université, qu'on devient, disons, autre chose. C'est-à-dire qu'on participe aux éditoriaux, aux unes des journaux, et la parole que l'on a au sein de l'alma mater à l'université n'est pas la même que celle que l'on porte dans l'espace public.
Oui, peut-être.
On en prend les risques aussi, peut-être.
Évidemment, et peut-être que c'est ça qui dérange le plus ces auteurs, parce que j'ai l'impression justement qu'ils avaient soit mal lu mes travaux, soit qu'ils les avaient pas lus du tout. Donc ça, c'est une autre question. Mais
on leur posera la question quand ils pourront
venir. Le débat est à destination aussi du grand public plus que des politiques.
Corinne Torekens, qu'est-ce que vous pensez justement, vu de Belgique, là où vous travaillez, et de votre spécialité en tant que spécialiste de l'islam en Belgique, et vous avez travaillé aussi sur ce terme de radicalisation, de ce débat dont on pourrait dire qu'il est enfermé dans les frontières de la France. Est-ce qu'il pénètre jusqu'à vos discussions à vous, et en quoi il peut nourrir une réflexion plus large sur la question de la radicalisation islamiste, par exemple, dans l'ensemble de l'Europe?
Oui, donc je pense d'ailleurs que la réponse d'Hugo Micheron est très intelligente, et qu'il faut effectivement sortir des interpellations par carte blanche interposée. Maintenant, je pense aussi qu'on doit pouvoir poser un certain nombre de questions, et notamment de questionnements méthodologiques, sans se voir du coup accoler une étiquette, hein, islamophobe d'un côté, islamo-gauchiste de l'autre, parce que ça aussi, ça ne fait pas avancer le débat. Or, la recherche sur la radicalisation, sur le terrorisme, elle a avancé ces dernières années. On a vu apparaître des travaux importants, et je pense que dans le livre de Bernard Rouget, il y a des choses intéressantes, tout comme dans le livre d'Hugo Micheron. Maintenant, dans le premier, il y a quand même un certain nombre de gros problèmes d'un point de vue strictement scientifique. Et donc là, on ne peut pas seulement balayer la question d'un revers de la main en disant « bon, c'est une querelle de chercheurs et donc de corporations ». C'est important que les scientifiques qui apparaissent dans le débat public avec une caution de scientifiques, eh bien, répondent aux règles de base, aux règles minimales attendues de la démarche scientifique. Or, lorsqu'il n'y a pas de bibliographie, que des sources secondaires sont traitées sur le même plan que les sources primaires, qu'on réalise des enquêtes sous couverture qui posent toute une série de questions éthiques et qu'il n'y a pas d'explicitation méthodologique...
Sous couverture, vous voulez dire en n'ayant pas décliné son identité, c'est ce que vous voulez dire, c'est cela?
On ne peut pas, certainement pour partie, pas décliner son identité. En tout cas, il n'y a pas dans la plupart des chapitres du livre dirigé par Bernard Rouget, il n'y a pas d'explicitation méthodologique. Donc on ne sait pas comment la recherche s'est effectuée. Et je pense que ça, on doit pouvoir le poser à un moment donné, sans se clouer au pilori les uns les autres. Mais je pense que ça, c'est important, et je termine rapidement là-dessus, parce qu'on voit justement apparaître dans ces débats publics des experts ou des observateurs qui veulent se donner une caution scientifique, qui n'en ont souvent aucune, et dont il faudrait pouvoir interroger les sources justement qui fondent leur analyse.
Oui, mais ça, effectivement, comme Bernard Rougier n'est pas là pour pouvoir répondre à votre précision, avec précision à ce que vous venez de dire, Corinne Torekens, on va peut-être arrêter sur ce cas particulier de Bernard Rougier et de ceux qui ont travaillé avec lui pour ce livre sur les territoires islamisés de la République. C'est cela, Hugo Micheron, puisque vous y avez travaillé. Leïla Daklik, en quoi pensez-vous que la querelle que vous aviez mise en avant dans le travail que vous avez mené pour la Revue du Crieur en 2016 et renouveler ou pas, à écouter les participants à ce débat? Est-ce qu'on est au même point, islamisation de la radicalité selon Olivier Roy dans ces années 2015-2016, ou radicalisation de l'islam selon Gilles Kepel, ou est-ce qu'on a un peu avancé selon vous?
On voit que ça n'a pas non plus complètement cessé. Voilà, pour commencer. Mais ça a certainement un petit peu progressé. Alors, est-ce que c'est pour le mieux? Je suis pas certaine. Enfin, je pense qu'il y a en effet des travaux qui font avancer les choses et qu'on sait plus de choses. En revanche,
on sait plus de choses parce qu'il y a plus d'enquêtes qui ont été menées.
Il y a des gens qui travaillent. Voilà, absolument. On savait déjà beaucoup de choses. Faut pas non plus penser que tout a commencé en 2015. C'est aussi pour ça que les chercheurs qui travaillent depuis longtemps là-dessus s'agacent un peu. C'est que non seulement ça fait longtemps que travaille sur l'islam politique depuis les années 80 de manière assez intense, mais en plus il y a quand même eu des vagues d'attentats en 95 qui ont aussi suscité des interrogations et tout ça. Donc c'est aussi à cause de ça, je pense, qu'il y a une forme de vivacité dans ces échanges. L'autre chose qui me semble déterminante et qui, là, ne change pas beaucoup, c'est, en fait, elle tient exactement à ce qu'on était en train de dire là. C'est-à-dire que, en fait, ça n'est pas un débat scientifique. C'est-à-dire, et ça ne peut, il n'y a pas les conditions. Les conditions ne sont pas remplies pour que le débat scientifique puisse avoir lieu.
Qu'est-ce
réellement.
Que vous voulez dire, ça n'est pas, parce que c'est un déjà, c'est déjà ce que je veux dire, un débat c'est qu'il politique?
Il est d'emblée médié. Il est d'emblée médié, et il est médié, y compris dans les formes que prennent les publications. Alors, je ne parle pas du livre du Gomichon, qui est un livre, qui a son, sa cohérence, etc., qui est le résultat d'une enquête, etc. Mais c'est vrai que d'emblée, il n'y a pas d'espace, en réalité, si vous y réfléchissez. On parle ici de débats qui ont lieu à travers journaux, à travers les journaux. Mais des espaces de discussion entre ces différentes méthodologies, on les a pas. Parce qu'en réalité, si on voulait réfléchir à un débat scientifique sur ces questions-là, il faudrait réunir pas uniquement des spécialistes de l'islam, en réalité. C'est aussi ça qui pose problème. C'est-à-dire que quand on dit qu'on fait du terrain, qu'on travaille dans les banlieues françaises, on a aussi énormément d'experts des banlieues qui devraient participer à ces questionnements. Et disons que les critiques et les approches différentes, elles viennent pas uniquement de ceux qu'on appelle les islamologues. Mmh. Et l'usage même de ce mot-là, j'en ai fait la critique, mais je suis pas la seule.
Donc, je pense que les criminologues à la grande époque de l'Union soviétique, c'est ce que vous voulez dire.
Exactement. Exactement. Ça pose exactement le même type de problème, à mon avis. Mais c'est-à-dire que les débats sont d'emblée piégés.
Bernard Godard, vous qui avez vécu ces débats, comment vous voyez justement ce qui se dit? En quoi est-ce que ces écoles sont-elles conciliables ou irréconciliables? Et qu'est-ce qu'il y aurait de commun pour pouvoir comprendre cette évolution de l'islamisme sur notre territoire ou en Europe? Qu'est-ce qu'il y aurait de commun à aller chercher des causes sociales, des causes culturelles, des capacités justement de comprendre une radicalisation politique de l'islam, etc., etc.?
Oui, alors c'est pour ça que vous posez les termes de ce que vous posez. C'est effectivement, pour moi, c'est une régression. C'est-à-dire qu'auparavant, jusqu'à maintenant, les chercheurs, dont ça a bien été exprimé ou pas avant moi, on travaillait sur l'islamisme, on travaillait sur ce que ça voulait dire, sur effectivement des dérives violentes. On savait très bien comment on passait dans l'islamisme dans une phase violente, et alors qu'il y avait des phases qui n'étaient pas violentes. Enfin, des choses qui paraissent élémentaires pour tout islamologue, ou même des gens qui ne sont pas forcément islamologues, des gens qui connaissent la question. Maintenant, la vraie question, peut-être, à mon avis, c'est de savoir qu'en France, on a une notion de prévention de la délinquance, en particulier depuis une vingtaine d'années, qui a complètement, non pas changé, mais qui s'est muée en négation, si vous voulez, du phénomène de la nécessité d'une prévention de la délinquance. Je ne parle pas de la radicalisation. Donc, du coup, ça a des effets sur la radicalisation. Parce que si vous mettez en cause la prévention de la délinquance en excipant effectivement de tous les phénomènes sociaux, psychologiques dont les délinquants sont porteurs, ben vous le mettez aussi, vous transposez ça sur la radicalisation. Or ce phénomène, on va le dire depuis les années 2000, il y a effectivement une recul, et y compris chez les chercheurs. Je me rappelle le premier débat dans l'année 2010, avant que ce soit à la mode, sur la radicalisation, alors que dans le reste de l'Europe, c'était un débat qui était remué, qu'on débattait, alors surtout en Angleterre, mais en d'autres pays. En France, il y avait une vision beaucoup plus étriquée, qui était celle qui effectivement venait du chercheur américain Mark Sagemann, qui disait non, ce sont des délinquants, nous n'avons pas à avoir des considérations d'ordre de ce qui est du psychologique ou du social, et que effectivement, et ça, c'est le débat de fond qui a toujours existé en France.
Hugo Micheron.
Oui, en fait, il s'agit pas de dire qu'il y avait rien avant 2015, pas du tout, mais il s'agit de comprendre que les éléments qui ont été mis en circulation dans le débat public en 2015 n'ont pas été suffisants au niveau du débat public pour expliquer l'ensemble de la situation. Et vis-à-vis de ça, quel est le rôle du chercheur et de la recherche? D'aller reproduire de la connaissance, c'est-à-dire de repartir du terrain. Moi, je me définis pas personnellement comme islamologue. Je suis politologue, politiste. J'ai fait ma thèse en sciences politiques, et donc j'ai été amené à faire du terrain avec les méthodes usuelles en sciences politiques et en sociologie politique. Ayant dit ça, 5 ans de recherche, il est un peu délicat, je crois, quand on sort un travail, qu'on le met en circulation dans le débat public, de se voir ensuite tout de suite enfermé dans une case, par ceux-là même qui disent qu'il faut ouvrir le débat, si vous voulez. Donc il faut arrêter de réfléchir en slogan et venir en lisant sans réfléchir en termes de chapelle. Et donc je crois qu'il y a un effort à faire du côté des chercheurs, et puis il y a un effort à faire du côté des commentateurs qui, eux, ont tendance à vouloir rationaliser aussi un débat universitaire tout de suite, si vous voulez, en essayant de chercher...
Des généalogies, des chefs etc. de file,
Alors qu'en fait, là, on parle d'une méthodologie. Alors, la méthodologie a été évoquée. En ce qui concerne la méthodologie de mon travail, est extrêmement claire et explicitée au début du travail. C'est des entretiens semi-directifs sous mon nom, de façon extrêmement transparente, en présentant l'objet de mes recherches aux interviewés, aux enquêtés que j'ai rencontrés, aussi bien dans les prisons qu'en France et au Moyen-Orient, dans le but de reconstruire, si vous voulez, les contextes locaux dans lesquels peuvent se produire les départs pour la Syrie et aussi un certain nombre d'évolutions avec cette idée. D'où est-ce que nous viennent, si vous voulez, les attentats? Ils ne nous tombent pas sur le bout du nez, ils se sont construits dans le temps long à travers un certain nombre de dynamiques qui sont aussi bien des dynamiques religieuses que sociales et politiques. Et je prends tout ça en compte. Alors, je ne réduis pas le débat à mon travail, mais par contre, je crois que je ne réponds pas non plus à un certain nombre de limites qu'on m'oppose.
Merci Hugo Michon. Je vous propose d'écouter tous les quatre un extrait de la pièce Djihad du Belge Ismaël Saïdi, l'odyssée tragicomique de trois jeunes bruxellois qui partent faire le djihad. C'est une pièce qui a été écrite en 2014 et qui a connu depuis un immense succès, d'abord en Belgique, puis en France, où elle a attiré ces quatre dernières années environ 700 000 spectateurs. Elle était encore à l'affiche il y a deux semaines à Paris.
Dans ma trousse de toilette, il y a une brosse à dents.
Ok.
Un bâton de sawak.
Mashallah.
Une savonnette.
Uh-huh.
Un tube de dentifrice.
Ouais.
Combien de millilitres?
Moins de 100.
Ok, ça passera.
Tu me prends pour un con.
T'as vraiment
non, mais ça, c'est bon, trace.
Bon, il y a aussi un shampoing sec.
Uh-huh.
Des lames de rasoir.
Okay.
Un déodorant. De la mousse.
Oh, stop. Répète ce que tu viens de dire là.
De la mousse.
Avant ça.
Un déodorant.
Avant ça.
Des lames de rasoir?
On va entrer dans l'avion avec des lames de rasoir.
Bah ouais.
Ah, je vais vous faire un dessin, les gars, c'est très facile. Trois Arabes. qui entrent dans un avion. Avec des lames de rasoir.
France Culture.
Ça vous rappelle rien, ça?
Le temps du débat, Emmanuel Laurentin.
Un épisode de 24 heures.
Voilà, donc un petit extrait de la pièce Djihad du Belge Ismaël Saïdi qui se joue un peu partout en Europe et en particulier en France jusqu'à il y a encore peu de temps. On est dans un débat du temps du débat qui s'intitule « La compréhension de la radicalisation islamiste a-t-elle progressé ?» Corinne Torekens, est-ce que cette analyse de la radicalisation, même si le terme ne vous plaît pas trop, justement ce terme de radicalisation, a progressé selon vous et dans quel sens ?
Oui, donc on l'a souligné tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, cette compréhension, elle a progressé parce que de nombreuses enquêtes empiriques sont apparues. C'était l'une des grandes lacunes hein, des travaux sur le terrorisme et sur la radicalisation.
Vous voulez dire qu'auparavant, c'était des travaux théoriques sur les penseurs du djihadisme, sur la pensée même de ceux qui pouvaient avoir inspiré la radicalisation islamiste, c'est cela ?
En tout cas, il y a eu beaucoup, une profusion de modèles théoriques. Hein, si on pense à la pyramide de Mogadam ou à la théorie de l'escalier, peu importe. Donc, toute une série de modèles théoriques qui étaient assez peu ancrés dans l'empirisme. Et donc là, on peut vraiment que se réjouir de voir arriver des travaux empiriques. Hein, et puis, il y a quelques années, il y avait aussi ceux publiés par Xavier Crétier, Fabien Carrier et Laurent Bonelli. Donc, il y a une multiplication de travaux empiriques. Et à ce niveau-là, c'est véritablement très heureux parce que ça va permettre la confrontation des idées et notamment, par exemple, des trajectoires à analyser.
Léa Dakli, vous qui vivez à Berlin, vous sentez aussi la même chose du côté d'autres pays, comme en Allemagne aujourd'hui, avec des travaux qui seraient là aussi renouvelés dans ce sens-là?
Je pense que les travaux, oui, sont renouvelés un peu partout. Après, ils n'ont pas forcément pris toujours les mêmes directions. Il y a une chose qui est importante à noter quand même dans l'objet dont on parle, c'est qu'il est mouvant, hein, c'est que, au fond, les premiers experts de l'islam politique étaient souvent des experts qui travaillaient sur le monde arabe et musulman, et qui ensuite ont porter leurs questionnements sur les territoires européens et français. Aujourd'hui, je pense que les personnes qui travaillent sur ces questions-là ou bien travaillent exclusivement sur des enquêtes très très localisées sur les territoires européens, ou arrivent, comme c'est le cas du Gomichon, à articuler différents terrains pour essayer de voir comment on peut faire le lien. Et c'est pas facile, et au fond, c'est peut-être à cette articulation-là que le renouvellement s'est fait de la manière la plus déterminante. C'est le cas en Allemagne, mais en Allemagne, les questions se posent de manière un petit peu différente. Je crois que le paysage scientifique est beaucoup plus différencié, je dirais, sur ces questions-là. Et les questions liées à ce qu'on appellerait la radicalisation sont très strictement, limitées aux sociologues et aux politistes. Mmh. Et alors, tout ce qui concerne l'islamologie, c'est beaucoup plus emparé des questions liées à la formation des imams, à la formation d'un islam, local. Mmh. Mais ceci depuis les attentats, en l'occurrence, de 2001. Ouais. L'histoire est plus longue.
Ouais. Hugo Micheron, est-ce qu'il y a un intérêt à faire des travaux qui intéressent le politique? C'est-à-dire que on voit bien que pour beaucoup de chercheurs, ils travaillent sur des sujets qui, d'une certaine façon, n'intéressent pas le politique en tant que tel. Vous, évidemment, on sait combien les crédits de recherche ont été orientés vers justement l'analyse du djihadisme, l'analyse des terrains à risque en Méditerranée, en Afrique subsaharienne, etc., etc. Est-ce que vous sentez que vous avez, entre guillemets, l'oreille du politique parce que vous travaillez sur un sujet qui intéresse le pouvoir politique?
En ce qui me concerne, j'ai commencé une thèse non financée, comme beaucoup de doctorants, donc c'est bien un signe que les financements affluent pas toujours de façon massive. Plus sérieusement, c'est pas évidemment, c'est un sujet extrêmement important. Donc effectivement, il va y avoir un intérêt, mais je crois que l'importance de la recherche, elle doit jamais être la finalité. Ça doit jamais être le pouvoir politique. La finalité, c'est la société française et la compréhension des grands enjeux.
Maintenant, non, mais ça peut aider, disons, de pousser ses propres thèses, sa propre vision des choses auprès du pouvoir politique, parce qu'on se dit, tout compte fait, il y a un levier d'action pour que peut-être, ça change dans le sens où j'analyse la nécessité d'un changement.
Oui, mais c'est, je crois, très très dur de prévoir ça, et à vrai dire, je crois que c'est vraiment pas une bonne finalité. Une recherche, c'est vraiment une question qu'on se pose et une façon de se positionner par rapport à un grand sujet. De ce point de vue-là, il y a effectivement une évolution du pouvoir politique parce que il y a nécessité sur ce sujet, et la première d'entre elles, c'était la dimension sécuritaire, mais on voit bien que la seule prise en compte du djihadisme sous l'angle des attentats n'était pas suffisante. Et donc, il faut élargir le champ. Et ça, c'est pas une préoccupation du politique, ça doit être une préoccupation de la recherche.
Quand vous étiez au ministère de l'Intérieur, Bernard Gonard, vous avez dû en voir passer des experts, des spécialistes, soit de l'islam et de l'islamisme, soit du terrorisme, qui venaient donner des conseils au ministre de l'Intérieur, au président de la République, je ne sais.
Oui, mais là, justement, chacun était dans son champ propre et on savait très bien que quand on parlait de terrorisme, on avait parlé avec quelqu'un qui avait une connaissance quand même beaucoup plus technique de ce qu'était le terrorisme, de savoir éventuellement y parler, bien sûr, en amont de ce qu'était, comment le rapport de l'islamisme avec le terrorisme. Mais chacun avait quand même ses fonctions. Et les attentats ont quand même bouleversé. Et surtout, ce qui est très important, c'est que la réflexion de l'État à partir de 2015, de janvier 2015, ça a été un bouleversement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait maintenant? La recherche. Du coup, on a ouvert des tas de portes, un peu rapidement, sans distinction, sans préparation. C'est-à-dire, on va rétablir l'étude de l'islamologie, on va...
Qu'on se plaignait effectivement à un certain moment d'une sorte de rupture par rapport à l'école coloniale et postcoloniale, qu'il faudra reconnaître qu'on avait une grande école de spécialistes de l'islam qui tenait aussi à la présence française dans des territoires qui était depuis indépendant. Et donc, on s'est dit, tiens, peut-être, si on connaissait mieux l'islam, l'islamologie, on comprendrait peut-être mieux ce qui est en train de se passer dans ces territoires-là, par exemple.
Mais ce n'était pas un sujet majeur. Moi, je sais que j'ai travaillé au cabinet de Jean-Pierre Chevènement à la constitution de ce qu'ils appellent l'Institut des études sur les sociétés du monde musulman, qui est rattaché à l'OHESS. Ça n'a pas rencontré une grande adhésion du côté de l'éducation nationale. Bien sûr, c'était pensé du côté du ministère de l'Intérieur, ce qui n'était pas très honnêtement vu. Ça peut se comprendre. Mais si vous voulez, l'ISM, ce fameux institut, qui, moi, je pense, en 2015, j'aurais pensé que ce serait, ça aurait pu être l'endroit à partir duquel on allait se lancer dans des recherches, bah finalement ça n'a pas été l'endroit, et donc du coup on a lancé des budgets, on a ouvré 10 postes, etc. Mais si vous voulez, ça, c'est parti un peu dans tous les sens, quoi. Voilà.
Corinne Torekens, est-ce que ça a été la même chose avec les attentats que vous avez pu connaître aussi en Belgique? Est-ce que, disons, une volonté d'urgence a saisi les dirigeants de votre pays et de compréhension rapide de ce qui était en train de se passer?
Oui et non, c'est-à-dire qu'on a aussi vu cette nécessité de d'avoir une compréhension de ce qui était en train de se dérouler. Il ne faut pas oublier aussi que Bruxelles et au sein de Bruxelles, des territoires comme Molenbeek ont été pointés du doigt, parfois peut-être un peu rapidement. Et donc il fallait effectivement essayer de comprendre ce qui était en train de se dérouler, parfois ce qui se déroulait sur un temps long. Et dans le même temps, en Belgique, tout est compliqué. Pas uniquement parce que pour le moment on n'a pas de gouvernement depuis plus d'un an, mais même quand on a un gouvernement, ça reste compliqué.
Il faut négocier.
Ben, il n'y a pas que ça, il y a un État fédéral, ouais. Puis il y a les régions et les communautés. Donc forcément, les ressources et les financements peuvent être divisés entre plusieurs institutions, mais très clairement, il y a plusieurs gros projets d'envergure qui sont en cours et qui vont s'achever dans l'année ou dans les années à venir et qui contribueront à ce champ de recherche. Il ne faut pas oublier que les polémiques qu'on peut voir se comprennent aussi en partie parce que le monde de la recherche évolue de plus en plus dans des ressources limitées, qui se limitent de plus en plus, mmh. et dans un financement public qui se restreint et qui se contracte. Donc ça donne aussi forcément des effets de position beaucoup plus forts dans le débat public.
Parce que effectivement, il faut aussi assurer sa propre position au sein de la recherche, au sein de l'université. Hugo Michon, vous êtes d'accord avec ce qui vient d'être dit par Corinne Torekens?
Oui, bien sûr. Et puis en fait, il y a à l'heure actuelle assez peu de sujets aussi clivants en France. Il faut le rappeler que la question du djihadisme et donc du coup ça se retraduit aussi dans l'analyse. Il y a peu de phénomènes qui ont évolué de façon aussi rapide. Il y a 20 ans, c'était un sujet qui n'intéressait personne, et aujourd'hui c'est l'un des sujets majeurs de discussion bien au-delà des cercles universitaires. Et donc c'est je crois cet ensemble d'éléments qui permet de comprendre aussi les évolutions des dernières années.
Et Bernard Godard, vous qui avez analysé depuis longtemps justement cet aller-retour entre recherche et décision publique, vous attendez quoi des décisions qui vont venir dès demain? Je sais bien qu'il faut jamais prédire l'avenir quand on est chercheur, mais des décisions qui viendront de la bouche du président de la République à Mulhouse?
On sait que les limites et les frontières soient bien tracées entre ce qui est les sujets de préoccupation. Par exemple, si on parle de l'islam et de l'institutionnalisation, c'est un sujet en soi. Si on parle de la pratique religieuse, c'est un sujet en soi. Si on parle de terrorisme, c'est un sujet en soi. Alors, je sais, ça paraît stupide de revenir là-dessus, mais je pense qu'on est dans un confusionnisme dangereux et que, effectivement, le président de la République, je pense, qui va effectivement, ne serait-ce que sur la laïcité, la conception de la laïcité. Vous voyez, quand on voit la laïcité, on arrive au terrorisme. Donc du coup, il y a besoin de replacer, hein, de faire, d'un point de vue sémantique, de repréciser les choses.
Merci en tous les cas à tous les quatre d'avoir dialogué autour de ces questions qui, je n'en doute pas, reviendront assez rapidement dans le temps du débat, parce que après les discours du président de la République, il y aura des discussions autour de cette notion de séparatisme, je pense, qu'il a l'intention de mettre en avant, d'après ce qu'on dit à l'Élysée. Dès demain à Mulhouse. Merci Hugo Michon, je rappelle que vous êtes auteur du djihadisme français, quartier, Syrie, prison, préfacé par Gilles Kepel, on l'a compris. C'est chez Gallimard. Bernard Godard, vous êtes auteur de La question musulmane en 2015 chez Fayard. Leïla Dakli, vous avez travaillé sur le Proche-Orient et pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, vous avez publié dans la revue du Crieur quelque chose qui s'intitulait un article sur l'islamologie est un sport de combat, et Corinne Torekens, vous continuez à travailler sur l'islam en Belgique. Merci donc à tous les quatre. C'était le temps du débat. Chloé Cambrelin, Fanny Richer, Rémi Baille, Hugo Boursier, Manon Prisset, merci à Ludovic Piétenu d'avoir accueilli Leïla Dakli dans son studio à Berlin. Il est le correspondant de Radio France à Berlin. À la technique Swalbourg Corsa et à la réalisation Alexandre Manzanares.